au micro Idriss Afegudia. Bonjour pour un bulletin d'information et Nathalie Barge pour les magazines. Les législatives de dimanche au Mali ont été marquées par des enlèvements d'agents électoraux, le pillage de bureaux de vote et l'explosion d'une mine qui a fait 9 morts selon des informations recueillies au lendemain d'un scrutin également affecté par la crainte du coronavirus. Aux environs de Niafungé, localité proche de Tombouctou, où le chef de l'opposition Soumaila Cissé en campagne pour ces élections a été enlevé la semaine dernière, un véhicule militaire a par ailleurs sauté sur une mine lundi à la mi-journée, selon une source de sécurité locale et le commandant de la région militaire de Tombouctou, le colonel Boubacar Yansari Sanogo. À l'instar de l'Union européenne et de la France, les États-Unis ont remis en question lundi la crédibilité du référendum sur une nouvelle constitution qui s'est tenu le 22 mars en Guinée et les élections législatives qui ont eu lieu le même jour. À la lumière de nos observations et au regard des rapports du gouvernement faisant état de la fermeture et de la destruction de bureaux de vote, le taux de participation et les résultats proclamés suscitent des interrogations portant sur la crédibilité du scrutin, a indiqué l'ambassade des États-Unis à Conakry sur son site Internet. L'opposition accuse le président Alpha Condé de chercher à briguer un troisième mandat fin 2020. Le principal opposant nigérien, Ama Amadou, écroué depuis novembre 2019 pour trafic international d'enfants, fait partie des 1540 détenus gracié par le président Mahamadou Issoufou pour des raisons humanitaires et pour désengorger les maisons d'arrêt et empêcher la propagation du coronavirus dans les prisons. Début mars, après 2 semaines de soins médicaux en France, Amadou avait regagné sa prison dans l'ouest du pays où il était incarcéré depuis le 19 novembre 2019 pour purger le reste de sa peine de 8 mois de prison ferme sur 12. Il avait été condamné dans le cadre d'un trafic international d'enfants avec le Nigeria et impliquant également une de ses épouses. Il avait crié au procès politique, assurant qu'on voulait l'écarter de la lutte pour la présidentielle de 2020. L'ancien président Joachim Yombi Opango au pouvoir au Congo-Brazzaville entre 1977 et 1979 est décédé lundi en France des suites du Covid-19 à l'âge de 81 ans. Cet officier porté à la tête du pays juste après l'assassinat du président Marien Ngouabi, 1968-1977, ne dirigera le pays que pendant 2 ans avant d'être évincé par l'actuel président Denis Sassou Nguesso. En Afrique toujours, le président ougandais Yoweri Museveni a décrété lundi soir pour 2 semaines un arrêt immédiat de toute circulation de véhicules et un couvre-feu nocturne. Au Zimbabwe, la police est descendue en force dans les rues de grandes villes pour faire respecter le confinement, alors qu'au Nigeria, les villes d'Abuja et Lagos sont entrées en confinement total pour au moins 14 jours. En Côte d'Ivoire, un des syndicats des agents de santé a dénoncé lundi le manque de moyens dans la lutte contre le coronavirus dans le pays, qui a enregistré 165 cas pour un décès selon le dernier bilan. Le président Alassane Ouattara a annoncé le 23 mars un plan de riposte national d'un montant de 95,8 milliards de francs CFA contre l'épidémie. Les autorités ont depuis annoncé la création de 300 lits pour des malades. En Afrique du Sud, où l'on compte 1326 cas confirmés de COVID-19, dont 3 décès, le président Cyril Ramaphosa a annoncé lundi qu'environ 10 000 agents de terrain se rendront dans les maisons, dans les villages et dans les villes pour passer au crible les résidents et repérer les symptômes de COVID-19. Il a ajouté lors d'une intervention télévisée que les personnes qui ont des symptômes seront envoyées dans des cliniques pour être testées. Ici aux États-Unis, le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, a pris un décret obligeant les habitants de cet État à rester chez eux et à limiter leurs sorties aux déplacements essentiels sous peine d'amende et de peine de prison.
Idrissa Seydoudia. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour la suite de l'actualité en Afrique. Au Niger, l'opposant Amadou sort de prison à la faveur d'une grâce présidentielle accordée pour des raisons humanitaires et pour désengorger les centres de détention du fait de la pandémie de coronavirus. Ancien président de l'Assemblée nationale et ancien premier ministre, il purgeait une peine d'une année pour complicité de trafic de bébés. Le point avec notre correspondant Abdul Razak Idrissa.
C'est la conséquence d'une des mesures sociales prises par le président Issoufou Mahamadou pour gérer la pandémie du coronavirus qui sévit au Niger. 1540 détenus sont libérés pour décongestionner les prisons. Parmi ceux qui remplissent les critères définis par le décret présidentiel, Mahamadou, principal opposant, condamné à une peine d'un an de prison pour complicité de trafic de bébés. Il va donc quitter la prison de Filenge située à environ 200 km de Niamey, pour gagner son domicile du quartier Rekazma dans le premier arrondissement de la ville de Niamey, allié du président Issoufou. Pendant les premières années de son premier mandat, Mahamadou s'est exilé au début d'une affaire de trafic international de bébés dans laquelle il a été présumé impliqué avec une de ses épouses. Il restera 3 ans hors du pays avant de rentrer pour la présidentielle de 2016 sans battre campagne puisque emprisonné, il met en ballottage le président sortant. À quelques jours du second tour, il quitte encore le pays officiellement pour des raisons sanitaires. C'est en novembre 2019 qu'il est de nouveau rentré et à nouveau arrêté et incarcéré pour purger le reste de sa peine. Malgré sa situation de condamné, son parti l'a investi comme son candidat à la présidentielle de décembre prochain. Abdul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
En Ouganda, un influent pasteur a été inculpé et placé en détention hier pour avoir remis en cause l'existence du nouveau coronavirus en Afrique. Le point avec Michel Joseph.
Augustin Yiga est accusé par le parquet d'avoir affirmé qu'il n'y avait pas de coronavirus en Ouganda et en Afrique dans un sermon vendredi devant ses fidèles de l'église du Renouveau chrétien. Le pasteur Yiga a été inculpé et placé en détention pour des faits susceptibles de provoquer la propagation du Covid-19, a déclaré le porte-parole de la police ougandaise Patrick Onyango. Le pasteur, qui possède sa propre chaîne de télévision et revendique des dons de prophétie, risque une peine maximale de 7 ans de prison. Il a plaidé non coupable et une audience a été fixée au 6 avril. L'Ouganda compte à ce jour 33 cas confirmés. Les écoles, lieux de culte ont été fermés pour un mois et les transports en commun sont interdits. Pour les particuliers, pas plus de 3 personnes sont autorisées par voiture et une seule par moto.
En Sierra Leone, les filles enceintes vont pouvoir aller à l'école. Le gouvernement a décidé de lever l'interdiction qui pesait sur elles depuis 5 ans. Le point avec Eki Abadou.
La levée de l'interdiction a un effet immédiat selon le ministère de l'Éducation. Comme toutes les écoles sont fermées à partir de ce mardi jusqu'à nouvel ordre pour contenir le nouveau coronavirus, les filles enceintes devront encore attendre avant de se rendre en classe. La Sierra Leone avait officiellement interdit aux filles enceintes d'aller à l'école en 2015 à la suite de l'épidémie d'Ebola où, selon les Nations Unies, quelque 14 000 filles étaient tombées enceintes. Des milliers d'orphelines dont les parents étaient décédés d'Ebola s'étaient tournées vers la prostitution pour survivre selon Amnesty International. La Cour de justice de la CEDEAO a ordonné en décembre la levée immédiate de l'interdiction. C'est un grand pas dans la bonne direction, a réagi Cher Norba, chef d'une organisation locale de défense des droits des femmes. Cependant, il a prédit que l'effet de l'interdiction se fera encore sentir pendant des années.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce matin par Nani Talani.
L'inflation annuelle en Algérie est tombée à 1,8% en février contre 1,9% en janvier en raison de la baisse des prix de certaines denrées alimentaires. Le Bureau national des statistiques indique que l'indice des prix à la consommation a baissé de 0,6% en février.
les prix de la viande et de la volaille ont chuté de 3,6%, tandis que le coût des produits manufacturés a chuté de 1%. Le Nigeria a ordonné aux sociétés pétrolières et gazières de réduire leurs effectifs offshore et de passer à des rotations de 28 jours pour freiner la propagation du coronavirus. Le personnel non essentiel sur les sites offshore devrait être retiré avec effet immédiat. Le pays tient à protéger sa production de pétrole qui lui fournit 90% de ses devises étrangères. Pour terminer, l'Arabie Saoudite a l'intention d'augmenter ses exportations pétrolières de 600 000 barils par jour à partir de mai, ce qui portera ses exportations à 10,6 millions de barils par jour. Cette annonce du premier exportateur mondial de brut intervient en pleine chute de la demande en raison du nouveau coronavirus qui a contribué à faire plonger les prix du brut et fait peser la menace d'une récession sur l'économie mondiale.
Yacouba Ouidraogo avec vous pour la page des sports.
Bonjour à tous. On connaît désormais les dates précises des Jeux Olympiques de Tokyo, reportées en raison de la pandémie de coronavirus. Ils débuteront en juillet 2021, soit quasiment un an jour pour jour après la date initialement prévue, et se clôtureront en août. L'annonce a été faite par le président du comité d'organisation japonais, Yoshiro Mori.
Nous avons décidé que les Jeux Olympiques se tiendront du vendredi 23 juillet au dimanche 8 août 2021. Nous avons décidé que les Jeux Paralympiques auront lieu du mardi 24 août au dimanche 5 septembre 2021.
Yoshiro Mori, président du comité d'organisation japonais des Jeux Olympiques. Cette annonce intervient moins d'une semaine après la décision par le Comité international olympique et le Japon du report historique des Jeux qui devait initialement ouvrir le 24 juillet 2020, mais repoussé d'un an à cause de la crise sanitaire mondiale liée au nouveau coronavirus. Certains athlètes avaient demandé ce report, d'autres par contre en sont déçus, à l'image du Béninois Pleven Nkatin, qualifié pour l'épreuve d'aviron.
Pour moi, c'est un coup dur parce que ça fait beaucoup plus de 4 ans que je me prépare pour cet objectif. On était vraiment arrivé très proche de l'échéance. Donc, toute la logistique, l'organisation et la préparation physique pour être au top niveau en juillet 2020 étaient vraiment finalisées.
D'après l'athlète béninois, le plus dur reste à venir.
La difficulté, c'est qu'il va falloir travailler pendant encore un an, un peu plus d'un an, chose qui n'est pas facile. Hein. Ça fait plus de 365 jours, donc plus de 700 entraînements à réaliser. C'est quelque chose de compliqué. Puis après, il va falloir retrouver des fonds et des sponsors. Aujourd'hui, j'ai des sponsors d'entreprises béninois comme SFP Group qui me suivent. Donc j'en suis très content. Mais il va falloir encore trouver des sponsors pour finaliser toute l'année de préparation. Mais une déception au début, mais je reste qualifié. Je suis très fier de courir sous mes couleurs et les couleurs du Bénin. Donc la fierté l'emporte. Et puis il va falloir repartir simplement.
Pleven Nkatin, athlète béninois au micro d'Élisée Mpatine, notre correspondant au Bénin. Autre compétition victime du Covid-19, ce sont les championnats du monde d'athlétisme initialement prévus en Eugène, en Oregon, en août 2021. Ils auront désormais lieu en 2022. Nous travaillons désormais avec les organisateurs des mondiaux d'athlétisme prévus en Oregon à de nouvelles dates en 2022, a déclaré la Fédération internationale d'athlétisme. Ces championnats du monde étaient programmés du 6 au 15 août 2020, une date rendue impossible par le choix du Comité international olympique et du Japon d'organiser les Jeux de Tokyo au mois de juillet et août de la même année.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Avec une vingtaine de cas confirmés et 3 décès, le Niger a décrété l'état d'urgence sanitaire. Pas de confinement pour le moment, mais Niamey est en quarantaine depuis hier. Le point avec notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Au 30 mars, le nombre de cas confirmés annoncés par les autorités sanitaires est de 27, en majorité des sujets nigériens. 3 décès ont été enregistrés, la capitale Niamey étant jusqu'ici la seule ville du pays touchée par la pandémie et mise en quarantaine pour 2 semaines. Un couvre-feu nocturne y est également décrété depuis le week-end. Tout le reste du pays est sous état d'urgence sanitaire. Transports en commun, écoles, lieux de culte, bars, restaurants et autres lieux de loisirs restent fermés. Dans un deuxième message à la nation, en l'espace de 10 jours, le président Issoufou Mahamadou a annoncé des mesures sociales pour accompagner la mise en vigueur des mesures barrières contre la maladie.
Exonération des droits et taxes sur tous les produits qui entrent dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Report de la date de paiement de la vignette à fin juin 2020 au lieu du 31 mars 2020. Suspension des contrôles fiscaux sur place pendant 2 mois à compter du 1er avril 2020. Exonération de la TVA sur le transport terrestre interurbain. Pendant toute la durée de la suspension de l'activité, suspension des poursuites en matière de recouvrement des impôts et taxes pendant 3 mois, prise en charge par l'État pour les mois d'avril et mai des factures d'électricité et d'eau pour les tranches sociales. Renforcement du plan de soutien annuel pour soutenir les personnes vulnérables. Distribution gratuite, vente à prix modéré, etc. Remise gracieuse de peine en faveur de 1540 détenus pour des raisons humanitaires et pour désengorger les maisons d'arrêt.
Autre décision, l'augmentation des capacités d'accueil des centres de traitement. Le ministre de la Santé publique a annoncé la disponibilisation cette semaine de 300 nouveaux lits pour accueillir d'éventuels cas, puisque des recherches actives sont en cours. Docteur Idi Iliassou Menassara.
Pourquoi on fait recherche active des cas quand il s'agit d'un cas suspect? Un cas suspect, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a été en contact avec quelqu'un qui a été déclaré positif. Il n'a pas besoin d'aller dans une clinique parce qu'il se pourrait qu'il contamine la clinique ou il se pourrait qu'il contamine ceux qui veulent l'amener. Et c'est pour ça qu'on conseille à la population qu'on a beaucoup insisté sur ces numéros pour qu'ils prennent un des numéros de n'importe quelle des communes. On est en train de renforcer ces ambulances pour les amener à un chiffre important qui pourra faire face. Donc, ça permet de réduire et de mettre même fin à la chaîne de transmission de cette maladie.
Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24. La Côte d'Ivoire a annoncé un décès dû au Covid-19 et 165 cas de contamination confirmés dimanche. Le gouvernement a fermé les établissements scolaires depuis 2 semaines afin d'éviter la propagation du virus. Comment les enfants gèrent cette période de congé forcé? Un élément de réponse dans le reportage d'Aïcha Diara Abouaké.
Nous sommes sur le terrain d'un quartier de la ville de Bouaké. Deux matchs de football se jouent ça et là. Des jeunes gens, bien que conscients de la situation, mais qui ont du mal à rester à la maison tout le temps. L'ambiance est vive. En ce moment, aucune restriction due au coronavirus n'est applicable. Primo Dao fait partie des joueurs. Selon lui, ils ne font que 2 à 3 fois par semaine juste pour se distraire.
C'est vrai, le gouvernement a dit de rester à la maison face à la maladie. Non, on essaie de suivre les règles. Mais on sort un peu, une fois par semaine, souvent 2, pour venir se distraire un peu au foot. Si on n'a pas ça là, on n'a rien à faire.
En dehors de ces instants de football entre amis, comment passent-ils leur journée? À cette interrogation, Kamalos Diakité nous répond. Il est élève en classe de terminale.
Bon, quand il rentre à 21h, il me couche. Il me lève à 9h aussi, bon, il essaie de manger. Il passe un peu de temps à la maison, bon, un peu, il sort, il met chez mes amis qui sont à côté, mon voisin qui sont à côté de moi, il met, on passe un peu de temps ensemble. Peut-être il passe quelque chose de... Comme aujourd'hui, 16h à 10h, 2h, déjà au dur, quoi. Puis il rentre. En restant à la maison aussi, la même, il peut contracter le coronavirus aussi.
Aboubakar Doumia, élève en classe de première, trouve son programme très ennuyant.
Vraiment, à la vérité, on est ennuyant. On doit respecter les ordres du gouvernement, rester à la maison et se protéger contre le coronavirus. C'est juste en fait, sinon, vraiment, chez nous, les élèves, c'est difficile.
Adama Kone, lui, est étudiant en anglais et se sent comme emprisonné à la maison.
En tant que jeune, moi, je vois que non, c'est pas du tout facile pour nous. Parce que nous aussi, on doit se tuer pour prendre un peu d'air, se divertir, tout ça là.
C'est pourquoi Kamal Osedia, qui était élève en classe de terminale, lance un appel au ministère de l'Éducation nationale afin qu'il se penche sur leur sort durant cette période de congé forcé.
Quand on est à la maison, on ne sait pas quand la maladie là va finir. Bon, on va rester à l'écoute. On a l'écoute aussi. Bon, tout le monde sait aussi que non, bosser seul là, ce n'est pas facile. On voit dans la télé, on parle de tout le monde sauf les élèves. On voit comme nous, on n'est pas concernés. Alors que normalement, on est concernés aussi. C'est pour mes programmes, pour rapport à l'examen. On se prépare à la maison, mais là, quand il est venu, les annonces sont composées.
Deux semaines se sont déjà écoulées depuis la fermeture des écoles. Et tout laisse à croire que cette fermeture va être prolongée par les autorités en raison de l'évolution de la pandémie dans le pays. Aïcha Diara Abouaké pour VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Musulmans et chrétiens du Sénégal ne peuvent plus aller prier dans les lieux de culte. Cette mesure entre dans le cadre de l'interdiction des rassemblements décidée par les autorités pour lutter contre le coronavirus. Une situation inédite que la majorité comprend et accepte. Un reportage de notre correspondant à Dakar, Sédina Abagué.
Après une première semaine mouvementée, marquée par des affrontements entre forces de l'ordre et fidèles autour de plusieurs mosquées du pays, le calme est finalement revenu avec l'instauration de l'état d'urgence et l'appel des guides religieux qui ont demandé aux fidèles de prier chez eux. Pour certains, c'est à contre-cœur que ces injonctions sont suivies. Pape Diop n'est pas convaincu, car pour lui, la prière collective est plus importante que tout.
La prière chez le musulman, c'est quelque chose de sacré, c'est important de prier. Le fait de ne pas prier et autres, c'est très intéressant. Mais bon, vu que ce sont des mesures d'hygiène, on est obligé de respecter ces mesures. Mais pour moi, ça me concerne. Pour moi, la prière n'est pas un facteur de contamination. Quoi. Ouais. Mais les fidèles sont obligés de comprendre, sont obligés parce que, bon, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Il faut comprendre. Quoi. Ce sont des mesures données par l'État. Quoi.
Sa vision des choses n'est pas totalement partagée par Ibrahim Kouyaté, qui va à la mosquée depuis 20 ans sans discontinuité. Pour lui, l'état d'urgence impose des mesures exceptionnelles auxquelles tout le monde doit se plier.
Psychologiquement, un musulman plein d'esprit qui comprend les choses n'a pas à avoir peur psychologiquement à être affecté par la fermeture de la mosquée. C'est un mal nécessaire en fait, parce que déjà on voit que dans les pays les plus développés, on n'a pas assez de sites sanitaires, à plus forte raison nous autres pays sous-développés. Je crois que les gens, jusqu'à présent, ils ne comprennent pas l'ampleur de la situation mondialement. Mais le fait est que les autorités aient fermé les mosquées, moi je vois que c'est une très bonne chose. Et aussi, sur le plan psychologique, les gens, ils vont comprendre.
Du côté de la communauté chrétienne, les autorités ont pris les devants en annulant toutes les messes et célébrations religieuses bien avant l'instauration de l'état d'urgence. Et pour les fidèles, cela ne change rien, car Dieu est partout, comme l'explique Gustave Sadio.
La foi, c'est dans le cœur. La foi, c'est de l'amour. On est dans une période où il faudra adorer Dieu en esprit. C'est à cette période qu'on est. Donc je dirais qu'il est difficile, comme on dit, de se rassembler dans cette période où sévit le corona. D'autres pensent que l'idéal serait d'aller dans un bien dit, dans un lieu bien déterminé pour prier Dieu. Mais Dieu est partout, disons-nous. Et c'est une vérité absolue. Dans la religion chrétienne, actuellement, nous, on ne prend pas ces interdits. Nous, la seule chose qui importe pour nous, c'est la santé. La santé de tout un chacun. Parce que cela fait partie de notre quotidien. Et cela fait partie de prier Dieu, d'adorer le Père.
L'état d'urgence décrété par le président Macky Sall a eu pour conséquence la fermeture des lieux de culte dans tout le pays afin d'éviter les rassemblements qui peuvent favoriser la propagation du nouveau coronavirus. Chez des Sénégalais qui sont très ancrés dans la croyance religieuse, c'est une mesure difficile, mais que la majorité comprend et accepte comme un sacrifice nécessaire dans la lutte contre le Covid-19. À Dakar, Sédina Bagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24. Dans la
la capitale gabonaise, Libreville, le marché du poisson est très sollicité en cette période de confinement partiel due au coronavirus. Les ménages contraints au couvre-feu affluent vers le centre d'appui à la pêche artisanale, alors que la demande est supérieure à l'offre. Un reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Le poisson se fait rare sur les étals du centre d'appui à la pêche artisanale de Libreville. Il faut presque se battre pour en avoir en quantité, selon Zvelkana Mengue, une habituée de ce marché du week-end.
C'est compliqué. On est là depuis les premières heures de la matinée. On est obligé de prendre un kilo là-bas, un kilo, ça vient en compte doute. On se bat, il est, je ne sais pas quelle heure, on est là depuis le matin.
Est-ce qu'on vous explique pourquoi cette situation?
Non, non, on n'explique pas. On n'explique pas. On n'a pas d'interlocuteur en face.
C'est une ruée vers les produits halieutiques qui fait naître des tensions entre les vigiles chargés de la régulation des entrées à l'intérieur du centre et quelques dizaines de clients qui perdent visiblement patience devant le portail.
Voilà, c'est ça. On va pas les fermer. Dites-nous que nous, on fait entrer les gens par vague. Ne venez pas signer que les gens puissent être fermés alors que c'est pas fermé.
Une ambiance, pas vraiment du goût de tout le monde. Pompier les sonos responsables de famille redémarre sa voiture, déçu de ne pas avoir trouvé ce qu'il voulait sur le marché.
Oh oui, il faut dire qu'il n'y a pas de poisson. Il se pourrait que, partiellement, il n'y a que la sardine. Tout le monde est venu pour la sardine. Et même la sardine, là, il paraît que c'est
un petit
peu. Quand vous regardez la sillon, ça ne nous donne pas de bon augure, en fait.
Pourtant, la responsable du centre d'appui à la pêche artisanale dément la rumeur de pénurie de poissons entretenue au sein de l'opinion. Olga Bouanga, coordonnatrice du CAPAL.
On attend les états comment se prendre au fur et à mesure dans la zone. Mais il arrive que pendant cette période, d'accord, le coronavirus, les gens viennent tous le matin, il n'y a plus de personnes qui nous voient comment.
Les pêcheurs sont d'avis que l'offre ne répond plus à la demande. Chariot Zibou est pêcheur.
Là, désolé, nous ne pourrons pas satisfaire la demande de tout le monde. Parce que les Gabonais dans la pêche déjà promotionnée ne sont pas nombreux. Voilà. Et ceux qui pourront encore alléger ce problème, c'est plus ou moins les expatriés. Mais les prix du capal ne les arrangent pas. Voilà. Peut-être que de ce côté, le ministère des Eaux et Forêts peut essayer de trouver une solution qui pourra arranger tout le monde, compte tenu des prix. Voilà. Donc quand les poissons arrivent ici, ils sont obligés de vendre hors capal à leurs abonnés à qui ils vendent à 3 000, 3 500 euros.
Libreville, Ismaël Obiangze, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Don't show up, don't come out, don't talk.
la technique. À la présentation, c'était Idriss Assidibia et Nathalie Barge. Restez avec nous sur voaafrique.com. Bonne journée et bon courage.